Amazonie, comment as-tu fait pour sauvegarder l'inespéré à l'ombre mauve de tes buissons? Ces hommes libres qu'on croyait morts depuis longtemps, où les avais-tu cachés? Tandis que d'autres venaient ouvrir les routes, bâtir les villes, jeter les ponts, et renverser les grands cèdres dressés comme des îlots dans le moutonnement des feuillages où les oiseaux et les singes dormaient depuis la nuit des temps. Depuis que je suis arrivée dans le parc du Yasuni en Amazonie équatorienne, je promène cette question. La confrontation entre l'industrie pétrolière et ses clans de nomades refusant tout contact avec notre civilisation a quelque chose de brutal et d'absurde qui me donne l'impression de traverser un rêve. Un de ces drames silencieux qui se jouent à mi-clos dans une jungle sans témoins.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Sixième épisode. Un voyage de 35 000 ans.
Je serais sûrement restée dans ce flou si je n'avais rencontré, sur cette photo arrivée je ne sais trop comment dans le bureau d'une fondation, le visage de cette petite nomade, Taona, qui a survécu au massacre de son groupe. Ce fut comme si l'existence de cet enfant, de ce peuple, rassemblait les fils épars de mes voyages, révélait le cœur de mon élan. Cet enfant réveille une autre façon d'être au monde, ensevelie jusque-là dans l'humus de mes lignées. Elle ouvre sur tout l'espace bouleversant d'un vis-à-vis qu'il me semble impératif, aujourd'hui précisément, de partir explorer. Ne serait-ce que pour honorer son surgissement du néant, ne pas le cantonner aux faits divers, à une dispute de spécialistes. Toutes ces supputations désespérées qui voudraient en faire un peuple mort, avant d'avoir seulement mesuré ce que cela implique pour nous de les savoir encore vivants.
Elle s'appelle Taona. Elle a 6 ou 7 ans. Le peuple auquel elle appartient se nomme les Talomenane, les gens du chemin. Mais pour moi, ce ne sont pas vraiment des non-contactés, car d'une certaine façon, ils nous connaissent, ils nous épient, ils nous évitent. Non, le terme le plus juste pour les définir serait « peuple isolé ».
José Proaño est ethnologue. Spécialiste des peuples isolés, il a été nommé par le gouvernement pour enquêter sur le massacre. Il m'a donné rendez-vous dans ce café du quartier Amazonas, à Quito, un lieu branché et bruyant où des images défilent sur de grands écrans plats.
Il semblerait que du jour au lendemain, les Talomenane se sont mis en mouvement. Ils sont, pour ainsi dire, sortis du bois. Quand on a découvert leur existence, c'était en 2003, et déjà à l'occasion d'un massacre. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a fait pression pour que l'État équatorien délimite un territoire autour de l'endroit où ils vivent, où nul n'a le droit d'entrer. C'était une mesure de protection, car ce peuple est extrêmement vulnérable. Ils ne sont pas immunisés contre les microbes que nous portons et qui pourraient les tuer. C'était aussi pour empêcher les massacres, car les Talomenane, comme beaucoup de chasseurs-cueilleurs, sont farouchement territoriaux. Mais, comme tu le sais, c'est l'économie pétrolière qui dicte tout en Équateur. L'État n'a jamais créé les conditions nécessaires pour assurer le respect de cette zone et la survie de ce peuple fragile et menacé. Les règles de précaution, fixées par la juridiction internationale, ne sont pas appliquées.
Et que deviennent les petites filles ?
Elles vont bien. Elles ont subi un processus d'intégration forcé dans la famille de leurs ravisseurs. Je te parle en ethnologue. Le traumatisme existe, bien sûr. Mais il faut savoir que la tradition du rapt est profondément inscrite dans la culture des Waurani, comme dans celle des Talomenane. C'est quelque chose qui s'est répété des centaines de fois chez eux. Elles sont un butin de guerre, comme peut-être leur mère ou leur cousine l'ont été. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les ramener dans leur clan? Ils sont tous morts. Quant à les laisser à proximité d'un autre clan Talomenane, c'est délicat. On ne sait rien de leur histoire, des relations qu'elles ont avec les autres clans.
Je suis venue à Quito pour rencontrer des spécialistes, comprendre qui est ce peuple, tenter de lui donner un visage. Il y a une telle irréalité autour de ces nomades que j'ai besoin de noms, mettre des signes sur une carte, faire le tracé approximatif de leur déambulation. Si peu de choses dans les journaux. Après 20 jours, personne ne s'est encore rendu sur les lieux du massacre. Hier, à la radio, un ministre a même parlé de « supuestos non contactados », comme si les Taromenane n'existaient pas.
C'est compliqué de donner des droits à un groupe qui refuse tout contact. Mais ne rien faire, c'est laisser commettre un génocide.
José a les yeux fixés sur son téléphone portable. Là-bas, dans la zone intangible, un clan de nomades vient d'être repéré par avion. Il attend des nouvelles. Va sûrement devoir repartir à Coca. Est-ce qu'il soupçonne ces hommes nus, partis pour une chasse, qu'une dizaine de spécialistes affolés s'envoient des photos, se livrent à toutes sortes de conjectures quant à la piste qu'ils ont pu emprunter ou à leurs intentions? Quito. Ville longue, serpentine, éparpillée au pied des volcans. Miettes de ciment piquées de fer, buildings facettés de miroirs, ou ces taudis de planches tenus dans une friche sur les versants du vide par des fils d'araignées. Quito stridente, puante, embouteillée. Bébé de terre-pleins endormis dans les vapeurs d'essence, tandis que les mères, les sœurs, crient la mandarine aux vitres fumées. Grouillement de nuque, talons, portable, barrette, le cheveu gominé et l'acrylique terne. Quito, Quito. Des vallées du Chota, des montagnes, de la côte, des forêts, tant de variétés de visages. Et d'autres encore venus de Chine, de Colombie, pressés, serrés en une seule chair dans ces bus aux fumées noires qui s'égosillent dans les pentes. Quito, bouffé par les nuages à longueur de journée, ville-ciel parfois brûlante, crue et glacée, où la nuit cogne tout à coup quand le soleil bascule par derrière les montagnes avec ses brumes qui se lèvent, ses rues évaporées et ses lumières tremblantes comme une loupe aux étoiles. Il n'y a qu'au cœur de la nuit, quand le ciel tousse d'éclairs sur les hauteurs de Papayacta et qu'un brouillard glacé réveille l'odeur des eucalyptus, que la mémoire revient de ces sentiers d'antan, parcourus en fil souple par famille ou par clan d'un bout à l'autre de l'équateur. Il faut le cri des ours sur les montagnes, la blancheur des glaciers pour réveiller notre passé nomade. Avant qu'il y ait ici ce grand corps affamé, transfusé de gestes et de substances, qu'on appelle une ville, la terre offrait dans les cueillettes, dans la surgie d'une bête, de quoi aller plus loin. Je suis assise à la fenêtre de ma maison de Guapulo, sur les versants de la ville. Quito, Quito. Le jour, je cours rencontrer les spécialistes, les journalistes, universitaires, écologistes, une poignée à peine sur ces 10 millions de personnes qui savent que vous existez, peuple invisible, homme du chemin. Comment dans un pays si petit peut-il y avoir une telle disparité entre les mondes, entre les vies? Comment les gens de la ville peuvent-ils ignorer à ce point ce qui se trame dans les jungles de leur pays? Comment faire exister ce peuple sans visage, sans papier? J'ai besoin de ces corridors d'insomnie pour faire courir la mémoire de ton peuple, Tahona. Tandis que les nuages, tes frères d'errance, caressent la ville endormie.
J'ai parfois l'impression que chaque histoire a le pouvoir de réveiller certains mondes. Comme si ce que nous vivons leur permettait de se mettre au moment, à sortir des livres afin de se dégourdir les jambes de notre réalité.
Celso est un poète, un guérisseur, un vieux voyageur, un ami.
Dans ton histoire de nomade, il y a le tact, le toucher. Leur territoire, ça ne s'invente pas, s'appelle la zone intangible. C'est-à-dire l'espace qu'on doit laisser intact. Et vous autres, les colons, les pétroliers, les guerrilleros, les trafiquants, ici c'est intangible, par décret. Interdiction de toucher. Tu parles. C'est drôle parce qu'intangible, c'est aussi impalpable. Quelque chose d'évanescent, de son grand réalité. Ce qu'ils sont aussi, vu de notre côté du monde. Ce que les politiques auraient intérêt à nous faire croire pour exploiter leur territoire sans limitation. Au fond, cette zone, elle est d'abord intangible pour eux, parce qu'ils ne sont au courant de rien, les innocents. Depuis 5000 ans, ils trottent dans la région, ne connaissant des frontières que les fleuves, les lances croisées en travers des chemins. Comment veux-tu qu'ils s'arrêtent à un endroit et fassent demi-tour parce qu'un groupe de spécialistes au 20e étage d'une tour a tracé une frontière sur un bout de papier? En faisant d'eux des intouchables, on les fait disparaître. Mais en les approchant, on les tue plus sûrement encore.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Tu devrais lire les livres de Sidney Pozuelo. C'est vraiment le grand spécialiste des peuples non contactés. Il travaille au Brésil pour la FUNAI, l'organisme de défense des indigènes. Pendant 30 ans, il a traqué ce peuple rare un peu partout dans la jungle. Il pensait qu'il fallait leur donner une protection juridique, faire reconnaître leur territoire. Il croyait aux vertus du contact forcé. Et puis, un jour, il a fait un bilan. Tous ceux qu'il croyait avoir aidés avaient disparu. Les uns étaient morts, foudroyés par les maladies transmises par l'homme blanc. Les autres sont devenus alcooliques, les rares survivants tassés dans des bidonvilles, ayant tout oublié de la forêt. À partir de ce jour, il a commencé à organiser des patrouilles pour créer des cordons de protection entre les non-contactés et nous. On pêchait absolument la rencontre.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Tu veux la vie du guérisseur? Le contact vient brouiller leur connexion. Pour le chaman que je suis, les nomades sont des maîtres. Ils n'ont pas besoin d'une plante, d'un rituel pour entrer en communication avec les bêtes et les esprits de la forêt. Ils sont constamment connectés. Le pétrole est le messager du chaos, le grand brouilleur d'ondes. Pour survivre, les nomades ont besoin de nourrir sans cesse leur relation à la forêt. Quand les bêtes s'éloignent, que la musique s'éteint entre les arbres, c'est déjà perdu pour eux, car ils sont désorientés. Les Occidentaux ne connaissent que le contact qui force, mais il existe bien d'autres façons de rencontrer.
Lesquelles?
Tu vas trouver, Anita. Tu vas trouver.
Où étais-tu partie ce jour-là, Taona, avec ta mère et ta sœur? Prendre de l'eau au ruisseau? Là-haut, les hommes chantaient la bière de Chonta. Ils chantaient le mortier des femmes et la fête à venir, dans la maison de palme pas encore terminée. Le jour tournait, roulé dans ses lumières en ce milieu d'après-midi, un 29 mars 2013. Une date, des chiffres qui bien sûr ne signifient rien pour toi. Mais il faut que je raconte en m'aidant des témoignages, des photos de smartphone où s'affiche même l'heure qu'il était. Le temps est venu de comprendre, dérouler entre nous ce sentier qui relie ton monde au mien. Comme un chemin de petits poussets, mais avec des gouffres, j'en ai bien conscience, entre chaque caillou. Parler d'abord de cette colère des Waorani de Yarentaro, les assaillants. 3 semaines plus tôt, les hommes de ton clan ont tué 2 anciens de leur famille. La vengeance est encouragée, attisée par les pétroliers qui les arment, leur fournissent un GPS, ne font rien pour empêcher le massacre. Pendant 2 jours, les assaillants ont marché jusqu'à tomber sur des traces, l'écho de vos voix, découvrir cette maison où ta famille est rassemblée. L'arme à la main, ils se répartissent les cartouches. Il est aisé pour eux de repérer les hommes et l'emplacement des lances, car les parois légères n'ont pas encore été montées. Sans doute sont-ils un peu terrifiés à l'idée d'affronter ces guerriers redoutables. Mais le ciel soudain se couvre et commence à tonner. Une aubaine pour lancer l'attaque. Le feu est ouvert sur les guerriers, les jeunes hommes, les femmes ensuite, la vingtaine de personnes présentes dans la maison. Perturbés par l'orage, les tiens ne réagissent pas aussi vite qu'ils auraient pu. Tous vont mourir en quelques minutes à peine. Ceux qui parviennent à sortir sont abattus aussitôt. Le feu s'est tu, ou presque. Les assaillants s'approchent, entrent dans la maison pour exécuter les enfants, une dizaine environ, achever les blessés à la lance. À présent, personne ne bouge. Le sang couvre la terre battue. Une odeur dont tu te souviendras longtemps après. La lance à la main, les assaillants fouillent les paniers, retournent vos affaires, s'amassent un butin. C'est alors qu'une jeune femme surgit. Ta mère, Taona, avec toi et ta sœur. En bas, au ruisseau, vous aviez d'abord cru au tonnerre, et remontant la combe, vous vous étiez caché dans ce buisson où vous avez assisté au massacre. Maintenant que les hommes s'approchent, ta mère, prise de panique, bondit devant eux. Soumise, elle supplie qu'on vous épargne, proposant de devenir l'épouse de celui qui voudra la garder. Les dialectes sont proches, vous vous comprenez facilement. Quand on l'interroge, elle parle d'un autre clan à un jour de marche, plus agressif que le sien. Les assaillants s'affolent, il faut partir. S'éloigner au plus vite, ne pas passer la nuit ici. Car il ne reste que 2 heures de lumière avant le crépuscule. Mais que faire de vous? Les abattre et s'en aller, tranche l'un des hommes. Un ancien parle de prendre ta mère pour épouse. On lui répond qu'il est trop vieux, qu'il ne saura pas l'empêcher de fuir. Avant qu'il ait le temps de répondre, ta mère est abattue. La tension monte. Alors tu t'avances vers l'un des assaillants. « Prends-moi. Laisse-moi vivre. Tu vois bien, mon père et ma mère sont morts. » Comment trouves-tu la force de tenter encore quelque chose, après tout ce que tu as vécu? Contre toute attente, l'homme répond qu'il te prend, et qu'il tuera ceux qui voudront l'en empêcher. Il prend aussi ta sœur. Et ainsi vous partez. Pour un pas d'homme, 3 ou 4 foulées de toi, petite fille. Peur de ne pas arriver à les suivre, qu'ils vous abattent en chemin. Peur surtout pour ta sœur qui te suit d'un trot machinal avec les yeux figés. Tu la tires par la main dans les pentes, la langue sèche, sans plus de mots. Jusqu'à ce qu'un homme la hisse sur ses épaules. Et là encore, ses yeux figés. Ce n'est pas seulement traverser la jungle, monter jusqu'à Yarantaro, c'est aussi entrer dans le temps, le rattraper, changer de monde. Ce sentier s'étire entre 2 façons de vivre, la tienne ou la nôtre, 2 visages de l'humanité. C'est un chemin de 35 000 ans qui réveille une mémoire commune qu'on croyait oubliée. Et laissant derrière toi le désastre, Taona, il te faut emprunter d'abord les sentiers familiers. Ces ruisseaux, où vous alliez prendre l'eau, ces grands arbres remplis de légendes et d'esprits, ces lieux de chasse. Avec tous ces souvenirs qui surgissent soudain pour te tourner le ventre, toutes ces traces du clan que maintenant tu es seul à reconnaître, et qui bientôt ne seront plus. Peur, peur de tout. Précédé de la sueur des hommes, ces peaux flasques et puantes qui battent sur leur corps et que nous appelons habits. Ces nourritures abjectes qu'ils te mettent dans la bouche pendant les pauses et que tu vomis aussitôt. Vos ravisseurs, vous les appelez les Kowori, les cannibales. Et vous êtes persuadé qu'ils vous mangeront tôt ou tard, comme vos parents l'ont raconté. Si bien que tu sursautes dès qu'ils te touchent. Et c'est la peur encore qui vient crisper ton cœur quand vous descendez vers cette rivière large où l'on te jette, d'où l'on te tire et que tu traverses sans trop savoir comment. La peur qui t'empêche de dormir pendant ces pauses de quelques heures, de retenir un cri quand un singe est tiré. La peur qui a figé le regard de ta sœur, pétrifiée où on la pose comme un petit objet. Elle est partout avec toi, cette peur, quand tu cours sans le souffle. Elle a dévoré tes pensées, tandis que la forêt s'éteint derrière toi, un silence sans écho. Où sont les toucans, les grands aigles, les singes tocos, toutes ces bêtes pour annoncer l'eau, le cœur sombre d'une combe, la présence des fruits? Quelle est cette forêt qui se laisse traverser sans répondre? Les grands arbres ont disparu. Chemin de cicatrices fraîches avec l'empreinte des camions, les flaques huileuses et ces feux bruyants portés par les torchères au crépuscule quand vous longez une plateforme. La boîte d'un chien te fait gémir encore, et ce plein jour blafard derrière les grillages, ses lumières allumées, puis de nouveau la nuit. Ils vous ont couché sur une bâche. Une fois encore, vous repartez. Il pleut, tu frissonnes. Il t'habille d'un plastique, un sac poubelle noué autour de tes épaules. Et vous voilà maintenant à descendre vers le grand fleuve. Le temps qu'ils appellent la pirogue, il t'assoit à côté d'un pipeline. Le tube est tiède, on dirait qu'il respire. Un serpent raide et puant, dont la respiration enfle tout à coup. Tu t'es levé pour ramasser ta sœur. Lentement, vous reculez, les yeux braqués sur le tube métallique. La rumeur grandit. Quelque chose se rapproche et soudain... Le bruit terrifiant t'a pris le souffle. Il court dans ton sang, remonte ta colonne, t'empêche de crier. Tout ce que tu as vécu depuis 2 jours est tassé dans ce claquement inhumain et glacé. Tandis que tu sens l'urine chaude de ta petite sœur couler le long de ta cuisse. En bas, on te fait signe. Il faut descendre vers le fleuve. Ta tête est vide presque, lessivée de chagrin, d'épuisement et de peur, lorsqu'ils t'assoient dans la pirogue qui remonte sur Yarentaro, lorsqu'ils prennent cette photo de toi, Taona. Cette image que je trouverai 2 jours plus tard sur cet écran d'ordinateur et qui ne m'a pas quittée depuis.
Le cercle sauvage de Anne Cibran. 6e épisode. Avec
Chloé Réjon,
Hakamare, Brontis Jodorowsky.
Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Emmanuelle Chuvrière. Prise de son, montage, mixage Claude Nior, Nicolas de Pagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien de Meyer. Réalisation, Laure Egorov.
O ya re mungra ma ya ri ri Hai me ma re la ya ya ri ri Vai va so vang di me jo la ka jo ponda manda ma ri ri So koe wa noe mundo tang kai ma api ti